Il est 19h, vous écoutez France Inter. Tout de suite le journal avec Xavier Demagny, bonsoir.
Bonsoir. Les talibans aux portes de Kaboul après avoir récupéré les grandes villes du pays. Réaction internationale, les puissances occidentales rappellent leurs ressortissants et ferment les ambassades. La capitale afghane ne tombera pas si facilement, pourtant nous dira un habitant. Les obsèques du père tué lundi en Vendée, moment d'hommage à Olivier Maire dans la basilique de Saint-Laurent-sur-Sèvre. Nous serons sur place dans quelques minutes. À la une aussi ce soir, un nouveau règlement de compte dans les Bouches-du-Rhône, le 12e depuis le début de l'été. Le pass sanitaire aussi bientôt en vigueur dans certains centres commerciaux et pour les mariages. Dans un quart d'heure, le téléphone sonne. Bonsoir Marion Lourd.
Bonsoir.
Échange, troc et location, les nouveaux modes de consommation au menu ce soir.
Ouais, ce n'est plus un truc de grand-mère qui dégote une lampe à frange dans un vide-grenier. Non, l'occasion devient un véritable marché sur Internet, mais aussi de plus en plus dans vos boutiques favorites. La seconde main, nouvelle façon de consommer, un peu tiens comme la location longue durée. Vos témoignages, vos questions, 01 45 24 7000 et sur l'application France Inter.
A tout à l'heure Marion. Un bon plan en fin de journal, histoire de se mettre au frais, une grotte en Ariège pour passer de 37 à 14 degrés. Car il va faire chaud encore ce week-end, l'épisode caniculaire se poursuit. 5 départements toujours en alerte, jusqu'à 38 degrés prévus demain.
France Inter.
Les talibans à l'approche de Kaboul en Afghanistan, inexorable progression des insurgés désormais à 50 km seulement au sud de la capitale afghane et après avoir pris le contrôle de la moitié des grandes villes en à peine 8 jours. Depuis le début d'après-midi, Nathanaël Charbonnier, de nombreux pays annoncent la fermeture de leurs ambassades et le rapatriement des ressortissants sur place.
L'Allemagne va réduire son personnel diplomatique à Kaboul au minimum absolu, explique le ministre allemand des Affaires étrangères. Berlin a également menacé d'arrêter ses aides si le pays tombe totalement. En Angleterre, réunion de crise sur le même sujet pour le Premier ministre Boris Johnson. Londres a déjà annoncé l'envoi dans les jours qui viennent d'environ 600 militaires pour évacuer les ressortissants britanniques du pays. Une décision qui intervient après les critiques du ministre britannique de la Défense sur la décision américaine de retirer ses troupes d'Afghanistan. Dans la même logique, Washington a annoncé l'envoi d'un millier de soldats à Kaboul pour évacuer diplomates ou ressortissants. Le Canada devrait adopter le même genre d'attitude. La Norvège, de son côté, a décidé de fermer temporairement son ambassade à Kaboul. Les Pays-Bas, eux, se posent la question à moyenne échéance. Enfin, la France rappelle qu'elle a déjà organisé le départ de nos compatriotes du pays avec un vol spécial le 16 juillet dernier et qu'elle demande aux Français toujours à Kaboul de quitter l'Afghanistan dès que possible.
L'OTAN, pour sa part, déclare à l'issue d'une réunion qui s'est tenue cet après-midi qu'elle soutiendra autant que possible le gouvernement afghan. À Kaboul, dans la capitale, la situation se dégrade de jour en jour à l'approche des talibans. Et même si les habitants sont dépités, la conquête de la capitale ne sera sans doute pas aussi simple que les autres villes récupérées ces derniers jours. C'est ce qu'estime Najib Bina, chirurgien à l'hôpital français de Kaboul, joint sur place par Valérie Crova.
On se sent abandonné par les communautés internationales. J'ai vécu trois fois la même situation. En 96, en 92 aussi. Là, ça va très vite. Kaboul, c'est un endroit très, très stratégique pour tout le monde. Et le gouvernement, maintenant, il est en position de défense. L'Afghanistan, c'est pas le même pays qui était dans les années 90. Aujourd'hui, les gens sont plus éduqués. Tout le monde presque a un téléphone portable. Un quart de la population, même plus, qu'ils ont accès à Internet. Donc je pense que sûrement il y aura une résistance. Je parle pas de la guerre des armes, mais aussi au niveau de la jeune génération va pas laisser passer comme ça.
Najib Bina, médecin à l'hôpital français de Kaboul. Ce soir, Paris promet un effort exceptionnel pour accueillir les personnalités afghanes menacées pour leur engagement en faveur des droits humains. La France qui ne participera pas à la prochaine conférence de Durban prévue en septembre, conférence de l'ONU contre le racisme en Afrique du Sud, en raison des déclarations antisémites auxquelles elle a donné lieu lors des précédentes éditions, annonce de l'Élysée plus tôt dans la journée. 20 ans après la première du nom, Bertrand Galichet, cette conférence de Durban continue donc de virer à l'affrontement idéologique.
Dès la première édition, en 2001, Israël et les États-Unis s'étaient retirés après une polémique sur l'assimilation, voulue par certains pays arabes, entre sionisme et racisme. Une fracture politique répétée 10 ans plus tard à Genève, où les pays européens avaient quitté la salle lors du discours anti-israélien du président iranien de l'époque, Mahmoud Ahmadinejad. Des épisodes qui ont convaincu la France de boycotter la conférence, devenue un enjeu idéologique et diplomatique. Bertrand Badi, spécialiste des relations internationales.
Au moment même où l'État d'Israël est dénoncé par des organisations internationales comme étant coupable d'une politique d'apartheid, des manœuvres diplomatiques se font jour et rallient beaucoup de gouvernements, des gouvernements africains, des gouvernements occidentaux et même des gouvernements de l'Europe de l'Est. L'état de culpabilité de la plupart des gouvernements occidentaux fait que ces gouvernements préfèrent laisser cette question sous le boisseau.
Depuis sa création, la conférence a vu également éclater des divisions sur l'esclavagisme et le colonialisme, des sujets attisés ces dernières années par de nombreux groupes de pression.
Bertrand Galichet, enfin un peu de répit pour l'Algérie, le nord du pays, ravagé par les flammes depuis le début de semaine. La majorité des feux de forêt sont maîtrisés ou en passe de l'être, disent les pompiers. Mais le bilan humain est dramatique. 71 morts, des villages entièrement détruits, des populations évacuées, le tout alors que le pays est en plus débordé face à la crise sanitaire en Algérie, mais aussi au-delà des frontières avec la diaspora. La solidarité s'organise. L'épouse, par exemple, du footballeur Nabil Fekir, franco-algérien, champion du monde 2018 avec les Bleus, elle coordonne une collecte lancée à l'appel d'une trentaine de stars du foot et elle a déjà récolté plus de 200 000 euros pour acheter des concentrateurs d'oxygène pour les malades du Covid.
C'est vraiment désastreux ce qui se passe. Le Covid et le virus Delta qui est arrivé donc a foudroyé l'Algérie de plein fouet. Donc on a reçu beaucoup d'appels via notre fonds de dotation et on a donc lancé la campagne, puisque un peu notre concept donc chez CID, c'est vraiment de s'appuyer sur la notoriété de nos maris et lancer des campagnes donc comme celle-ci. Donc ça fait seulement 3 jours qu'on a lancé la campagne. On a déjà récolté 237 000 euros. On a eu d'énormes partages donc de la vidéo. On a eu énormément de dons. 1 euro a fait la différence, 10 euros, on a reçu vraiment une multitude de dons et un élan de solidarité exceptionnel. C'est un dispositif médical en fait qu'on branche à une prise de courant électrique, donc ça permet d'être utile même hors hôpitaux, c'est-à-dire que même dans les coins reculés, les villages, donc c'est un dispositif qui est mobile et qui pourra vraiment sauver un maximum de vies étant donné qu'il se régénère.
Nadia Fekir, l'épouse de Nabil Fekir, le footballeur, jointe par Agathe Mahué.
France Inter, Xavier Demagny.
Hommage à un homme simple, accessible et d'une grande bonté. Les obsèques du père Olivier Maire ont eu lieu cet après-midi en Vendée, à Saint-Laurent-sur-Sèvre, la commune où le prêtre a été tué lundi. Cérémonie en présence du garde des Sceaux Éric Dupond-Moretti et de plusieurs dizaines de proches et de fidèles. Sur place, France Bleu, Loire-Océan, Manon Vautier-Choly.
Le cercueil du père Olivier Maire est arrivé dans la basilique, entouré de sa famille, ses parents et ses frères au premier rang. Une basilique pleine à craquer, où pendant plus de 2 heures, proches et frères d'église se sont succédés pour raconter sa bonté, son écoute, sa simplicité, mais aussi sa finesse d'esprit. Juste devant l'édifice, quelques personnes étaient également rassemblées pour suivre cette cérémonie sur l'écran géant mis en place spécialement. C'est le cas de Renée, par exemple. Elle habite ici, à Saint-Laurent-sur-Sèvre, et elle croisait souvent le père Olivier Maire quand elle allait se balader. C'était indispensable pour moi de venir lui rendre un dernier hommage, c'est ce qu'elle m'a dit, très émue, quand le cortège est reparti de la basilique en direction du cimetière. Un cortège avec une bonne centaine de Montfortins, tous venus vêtus du gilet bleu de leur congrégation et tous venus surtout assister à cette cérémonie.
Manon Vautier-Cholet, à Saint-Laurent-sur-Sèvre. L'enquête pour homicide volontaire se poursuit. Le principal suspect, un réfugié rwandais, est toujours hospitalisé en psychiatrie. Il est déjà mis en examen pour l'incendie de la cathédrale de Nantes. Le parquet d'Amiens va se replonger dans l'enquête sur le décès d'une femme en 2017, morte d'une chute dans l'escalier de son domicile. Son compagnon de l'époque, 44 ans, est actuellement mis en examen pour homicide volontaire, suspecté d'avoir tué sa nouvelle compagne, 33 ans, dont le corps a été retrouvé à son domicile dans la Somme complètement tuméfié. L'homme qui a reconnu les faits en garde à vue était déjà condamné pour des faits de violence conjugale à l'encontre de sa seconde compagne. Un homme tué de plusieurs balles dans la tête à Martigues hier soir. Bonsoir Emmanuel Leclerc.
Bonsoir.
C'est le 12e règlement de compte depuis le début de l'été dans les Bouches-du-Rhône. Situation très tendue dans le département sur fond de trafic de drogue, à l'image d'un autre fait divers cette semaine à Marseille.
Oui, un scénario tragique auquel les enquêteurs eux-mêmes ont encore du mal à croire, qu'ils ont mis près de 24 heures à établir avant-hier pour comprendre qui étaient les victimes et les meurtriers présumés. Et ils ont fini par estimer qu'ils étaient probablement les deux à la fois. Une ambulance avait d'abord évacué une victime criblée de balles à l'intérieur d'un bar à chicha, rue du docteur Perrin, dans le 3e arrondissement de Marseille. Tandis que les pompiers portaient secours en vain à un homme qu'ils ont d'abord pensé être victime d'un accident de scooter à 100 mètres du lieu de la fusillade. La première victime est un caïd de la cité phocéenne, très défavorablement connu des services de police, comme on dit, pour des trafics de drogue. C'est lui qui est d'abord frappé par plusieurs balles dans le thorax. Mais, selon nos informations, il réussit quand même à se jeter sur son agresseur, à s'emparer de son arme. Dans la bagarre qui s'ensuit, il tire à son tour à plusieurs reprises. L'agresseur, devenu victime, s'échappe malgré tout avec un complice qui l'attendait sur un scooter avant de s'écrouler une centaine de mètres, donc plus loin. Il est mort durant son transport à l'hôpital. Il était inconnu des services de police. L'homme qu'il a tenté d'assassiner a, lui, été opéré dans un état critique, mais son pronostic vital n'est plus engagé.
Emmanuel Leclerc, service police-justice d'Inter, l'auteur de la fusillade de Plymouth, identifié par la police britannique. Cet homme de 22 ans a tué 5 personnes, dont une fillette de 3 ans, avant de retourner son arme contre lui et de se suicider. Les enquêteurs écartent pour l'instant la piste terroriste ou celle d'un lien avec un groupe d'extrême droite. Mais l'examen des réseaux sociaux de cet homme révèle des tendances dépressives. Il s'agit là de la fusillade la plus meurtrière au Royaume-Uni en plus de 10 ans. En France, le Conseil constitutionnel donne le feu vert à 2 projets de loi du gouvernement. La loi contre les séparatismes, d'abord excellente nouvelle pour la République, se félicite Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur. Les sages valident aussi la loi climat résilience malgré le recours déposé par une 60aine de députés de gauche. Conséquence du fiasco, 3 mois après les régionales et les départementales, le ministère de l'Intérieur, là encore, met fin au marché avec Adrexo. La société était chargée d'une partie de l'acheminement de la propagande électorale, mais des dysfonctionnements inacceptables ont été constatés, dit la place Beauvau. La mise sous pli se fera par les services préfectoraux désormais. Une semaine de rodage qui s'achève pour le pass sanitaire. Fini la tolérance, désormais lundi, ce pass sera obligatoire et contrôlé dans certains grands centres commerciaux sur décision préfectorale, dans le Rhône, la Haute-Savoie ou la Gironde par exemple, renseignez-vous. Obligatoire aussi depuis ce week-end pour l'organisation des mariages. Et sésame obligatoire pour les mariés, les organisateurs, les convives et l'éventuel personnel de service. Un casse-tête pour Eglantine Merce, wedding planeuse comme on dit, basée à Montreuil en région parisienne.
La plupart des wedding planners, ce qu'ils font et ce que je fais aussi, c'est qu'on demande à tous les autres prestataires de vérifier que les employés, etc., ont leur passe sanitaire. Mais par contre, pour les invités, on ne peut pas, nous, être responsables du passe sanitaire des invités. Légalement, c'est pas possible. Et du coup, c'est qu'il y a un référent Covid parmi les invités qui ne soit pas forcément les futurs mariés. Donc, qui, c'est encore autre chose. Et puis, qu'est-ce qu'il risque, en fait ? Parce que en soi, lui, il est invité à un mariage. Je sais pas si c'est, mettons, le frère du marié qui est désigné référent Covid. Qu'est-ce qui se passe si, en effet, il a loupé quelqu'un? On a vu ce qui pouvait arriver pour les restaurateurs qui n'appliquaient pas le pass sanitaire. C'est des choses assez dures. Donc, dans un mariage, qu'est-ce qui peut se passer, en fait, pour ça? C'est pas hyper clair.
L'application du pass sanitaire de façon stricte à partir de lundi, et cela à la veille d'une nouvelle journée de mobilisation pour les anti-pass sanitaires. 250 000 manifestants attendus ce week-end, dont près de 200 rassemblements d'après les services de renseignement. Rassemblements importants prévus notamment à Toulon, dans le Var. 6 malades du coronavirus transférés en Bretagne et dans le Grand Est, en provenance de Corse et d'Occitanie, territoires les plus touchés par la 4e vague cet été en France. 6 autres doivent être évacués de Martinique pour rejoindre Paris dans le week-end. Actuellement, 1830 patients sont hospitalisés en soins critiques. Les championnats sportifs reprennent peu à peu. L'ouverture de la 2e journée de Ligue 1 ce soir, c'est à 21h, avec le déplacement de Monaco à Lorient. En Corse, EDF appelle à modérer sa consommation d'électricité en fin de journée, entre 18h et 23h, conséquence des températures élevées et de la forte fréquentation de l'île. Cet été, d'ailleurs, toujours 5 départements en vigilance orange canicule, la Drôme, l'Ardèche, les Alpes de Haute-Provence, les Alpes-Maritimes et le Var. Et globalement, les températures sont hautes et vont le rester ce week-end dans un large quart sud-est. Et si vous êtes à la recherche d'un refuge, offrez direction l'Ariège, à Ussat, près de Tarascon. 37 degrés cet après-midi, mais bien moins dans la grotte de Lombrive, Rémi Doutre.
Pour fuir la chaleur de l'été, rien de plus simple, il suffit de descendre sous terre dans la grotte de Lombrive.
Il fait entre 14 et 10 degrés selon les endroits dans la grotte, donc c'était vraiment très appréciable et très agréable.
On avait réservé ça pour un jour de mauvais temps, et puis là, ben, on vient plutôt se rafraîchir cette fois-ci.
La grotte attire aussi un grand nombre de curieux, comme Maïté, intrigué de visiter la grotte où les scientifiques de l'expérience Deep Time ont vécu 40 jours coupés du monde.
L'an dernier, nous étions là également. On n'a pas pu visiter cette grotte de Lombrive. Cette année, nous sommes revenus puisque, en plus, il y a eu une équipe de scientifiques qui a passé 2 mois à l'intérieur de la grotte. Alors, on était d'autant plus motivés pour venir et voir un petit peu ce qu'ils avaient vécu.
La grotte accueille 41 000 touristes l'été et cherche sans cesse à se renouveler en créant, par exemple, un escape game souterrain. Catherine Blasco est la délégataire de la grotte.
Là, on propose à des visiteurs, donc des groupes entre 3 et 6 personnes, de s'enfoncer dans l'antre des géants. C'est l'autre nom de la grotte de Lombrive, hein, puisque au Moyen-Âge, on pensait que cette grotte ne pouvait abriter que des géants. Notre maître de jeu ainsi accompagne donc nos visiteurs à plus d'1,2 km en profondeur et le jeu a lieu là-bas.
La grotte de Lombrive organise aussi des concerts grâce à l'acoustique exceptionnelle de certaines de ses salles.
Un reportage Rémi Doutre, France Bleu, Occitanie. Un dernier mot pour vous préparer à ce week-end de chasse et croisée. Près de 500 km de bouchons cet après-midi au pic. Journée rouge demain dans le sens des retours. Bison Futé conseille de circuler en Ile-de-France avant 14h et d'éviter notamment les autoroutes qui relient Lyon, Orange et Narbonne entre 8h et 20h. Pensez aussi aux réserves d'eau dans la voiture pour vous hydrater.
La météo avec Hello Business, la nouvelle offre bancaire dédiée aux indépendants par Hello Bank. Plus d'infos sur hellobankpro.fr. Hello Bank est l'offre 100% digitale de BNP Paribas.
Car il va faire encore beau et chaud, très chaud dans le sud-est. Bonsoir Elodie Calac.
Bonsoir à tous.
5 départements toujours en vigilance orange canicule.
Oui, je les rappelle, hein, l'Ardèche, la Drôme, les Alpes de Haute-Provence, le Var, les Alpes-Maritimes. La nuit prochaine sera particulièrement éprouvante autour de la Méditerranée avec 22 à 26 degrés, 18 à 22 sur les autres régions du sud et puis 11 à 18 degrés au nord, là c'est plus respirable. L'après-midi, il fera 22 à 27 degrés près de la Manche, 29 à Paris, 31 degrés à Nantes, à Mulhouse, 33 à Bourges, 34 à Lyon et à Bordeaux, 36 pour Marseille, pour Bastia, jusqu'à 37 à Nîmes et à Toulouse et on ira jusqu'à 37 à 41 degrés du Tarn et de l'Ariège vers le Languedoc, la Provence et l'intérieur du Var.
Et donc tout ça sous le soleil, Elodie.
Oui, un beau soleil avec un petit peu de grisaille tout de même le matin près de la Manche vers le Pays Basque, de l'Auvergne à l'Alsace aussi. Et puis l'après-midi sur le Jura, sur les Pyrénées, une petite averse possible. Pour dimanche, les températures vont amorcer une baisse sur les régions de l'Ouest. En revanche, les fortes chaleurs vont résister sur le Sud-Est et il faudra attendre lundi pour voir la baisse arriver.
Elodie Calac de Météo France, merci à vous et bon week-end. Dans un instant, le téléphone sonne, ne bougez pas.